Qu'y a-t-il ?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif ?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il ?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Oh non. Oui, on...
Bonjour, la question est posée chaque semaine dans Cinérama. Est-ce que nous avons vu un bon film et des films ? Eh bien, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Bonjour Marine, bonjour Manu.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Alors, de quoi on va parler ?
Alors, moi, je vais vous parler de deux premiers films. Un premier film qui s'appelle La danseuse de Stéphanie Di Gusto, qui est franco-italien, et un film roumain de Bogdan Mirica, qui s'appelle Dogs.
Et toi, Manu, c'est trois films.
Trois films, oui. Donc, le Morgan, le film du fils de Ridley Scott. Donc, il y aura aussi Aquarius, un film brésilien. Et puis, le nouveau Tim Burton, Miss Peregrine et Les Enfants Particuliers.
Et puis, un autre film qui sort le 5 octobre avec celui de Burton, c'est Le Ciel attendra de Marie Castille, mention Char. Normalement, c'est comme ça que ça se prononce. Et puis, eh bien, nous écouterons Karim Dridi qui sort Chouf. Film fait à Marseille, un film qui mélange cinéma et politique, c'est Cinérama.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Et on commence avec Dogs. Roman vient de Bucarest spécialement pour vendre les terres que son grand-père lui a léguées en mourant. Lui qui est un vrai citadin découvre une campagne aride et peu accueillante qui ploie sous la canicule. Très vite, il comprend que la vente de ses terres n'arrange pas la mafia locale, au point que l'un de ses amis vient même à disparaître. Alors attention, il faut savoir qu'on a mis donc dans la bande-annonce, bon là on a entendu juste un court extrait, donc dans la bande-annonce on a mis absolument tous les moments du film hein, où il se passe quelque chose, au point qu'on pourrait croire que Dogs est un thriller exalté alors qu'au contraire le film est d'une lenteur absolue, constitué de nombreux plans très larges avec des zooms avant extrêmement lents qui donnent à l'ensemble une ambiance totalement apathique. Dogs ferait presque penser parfois à Last Days de Gus Van Sant, qui est quand même pour moi la référence en matière d'inaction. Alors naturellement tout cela est voulu, hein, la pesanteur va de pair avec la chaleur qui pèse sur les personnages et l'ensemble nous plonge rapidement dans une atmosphère de western moderne. Car si Dogs est une nouvelle preuve de la vitalité du cinéma roumain actuel, c'est également un nouvel exemple de la fascination retrouvée pour le western. Depuis quelques années, il n'y a jamais eu autant de réinterprétations du western, côté américain naturellement avec Tarantino et Tommy Lee Jones, et côté belge même avec Bully Lanners. Alors voilà pourquoi dans Dogs, eh bien, on a énormément de tension et pas beaucoup d'action. Dogs est un pur western à la roumaine, dans lequel les grands espaces sont hostiles et où il faut défendre son territoire. On a même droit au personnage du shérif fatigué, au personnage de la copine inutile que le héros doit défendre et au fameux duel final. Alors, Dogs dépasse-t-il le simple exercice de style ? Eh bien, encore faut-il résister à l'endormissement qui nous guette au détour de chacune des scènes pour pouvoir le dire, car s'il fait énormément penser également au Chien de paille de Sam Peckinpah et qu'il fait preuve d'une belle maîtrise formelle, le film de Bogdan Mirica reste tout de même d'un ennui mortel. Oui, je fais des rimes maintenant. Je fais des rimes à chaque fin de chronique. Voilà, Dogs de Bogdan Mirica. Donc, bel exercice de style, mais quand même extrêmement ennuyeux.
Merci Marine, et on va maintenant eh bien aller du côté des fistons de réalisateurs, c'est celui de Ridley Scott.
Avez-vous remarqué qu'on tourne de moins en moins de films d'action actuellement ?
Oui, Cinérama.
Le monde devient philosophique.
Alors sur un sujet voisin de Eva, film espagnol d'anticipation, et Ex Machina, alors Morgan est un petit thriller d'anticipation hein, qui dévoile un peu trop rapidement ses enjeux pour passionner. Le sujet ne manque pourtant pas d'attrait. Hein. Consultante en gestion du risque, Lee est missionnée dans un lieu isolé et secret pour enquêter sur un événement indésirable. Une jeune fille, Morgan, fruit de mutations génétiques, objet d'expérience et cobaye, aurait agressé violemment un des scientifiques sur place. Alors si Morgan porte en elle la promesse de progrès scientifique indéniable, elle pourrait aussi être une véritable menace de par son comportement imprévisible et ses accès de violence. Alors Lee est présente pour remédier à ce problème.
La création d'un ADN synthétique était la partie la plus simple de l'équation. Nous avons tout de suite su que Morgan était exceptionnelle. En un mois, elle marchait et parlait. Ça a dépassé tous nos espoirs les plus fous. Elle était exactement ce qu'on avait cherché à obtenir. un organisme biologique hybride.
Je souhaite parler de l'incident, si vous êtes d'accord.
Que voulez-vous savoir ?
Je ne comprends pas bien la cause.
Il y a eu débat autour du temps que Morgan passait à l'extérieur. Lorsque les excursions avec Amy ont été reportées, elle a sans doute réagi de façon excessive. C'est tout à fait regrettable. En dépit de ce genre d'accident de parcours, c'est un projet qui va dans la bonne direction.
Alors Morgan est étrangement construit, hein, scindé en deux parties bien distinctes. Hein, la première partie, bavarde et assez explicative, hein, comme laisse l'entendre l'extrait, tente d'instaurer une ambiance inquiétante, mais échoue au moins pour une raison. Hein. Le personnage de Morgan est traité en surface, il n'aime pas. La seule question qui subsiste est de savoir si elle doit vivre ou non. Un argument un peu mince, hein, qui n'a pas échappé aux auteurs du film, car au bout de trois quarts d'heure, le rythme s'intensifie et le film bascule du côté du slasher violent et excessif, à la grande surprise d'un spectateur qui commençait à somnoler. Alors Luke Scott, le fiston de Ridley, dont c'est la première réalisation, emballe l'ensemble avec un certain talent. Hein, la mise en scène est très soignée, trop peut-être. Hein, les images ultra léchées, les cadrages très sophistiqués reflètent un certain académisme plastique, un petit peu à rebours du sujet. Il manque au film une émotion, une tension qui l'élèverait au-dessus de l'exercice de style, efficace mais un peu sans âme. Enfin, le caractère glacial de Lee, l'héroïne du film, hein, si on peut dire, est si appuyé que l'on anticipe le twist convenu au bout d'un quart d'heure. Alors dommage, l'idée est excellente, mais le traitement du personnage si grotesque qu'un enfant de 6 ans peut facilement deviner la nature profonde de ce personnage principal qui entre en scène dès les premières minutes.
Alors bah, dommage.
C'est une petite série B, ça se laisse voir en fait, mais voilà. Le problème, c'est qu'on voit ce film, on pense à Blade Runner de Ridley Scott, et ça ne tient pas du tout la comparaison. Ah oui. Hein.
Bon, les fistons ont du mal, hein, entre celui de Cronenberg et puis celui de Ridley Scott, il faut dire qu'ils s'attaquent quand même à un père.
Et celle de Johnny Depp aussi, dont je parlerai tout à l'heure.
Eh oui. Mais nous arrivons à l'heure bien de l'interview de cette émission, c'est celle de Karim Dridi.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
Chouf est annoncé comme le dernier volet d'une trilogie marseillaise engagée avec Bye Bye en 95, puis Kamsa en 2008, où le réalisateur Karim Dridi s'intéressait à la communauté gitane de Marseille. Chouf est un projet cinématographique et politique. Karim Dridi a tourné dans un quartier au nord de Marseille. Eh bien, il a fait des ateliers pendant 2 ans avec des jeunes qui composent l'essentiel du casting. Chouf, qui veut dire « regarde » en arabe, est aussi le nom des guetteurs des réseaux de drogue de Marseille. Alors, Sofiane, le personnage pensait en être éloigné de ces trafics qu'il a toujours vus de loin, même s'il est né bien dans le quartier, lui qui est un brillant étudiant dans une école de commerce, jusqu'au jour où son frère est assassiné. Et bien là, Sofiane n'a alors qu'une obsession, obtenir justice en préférant la loi du talion. Film noir, thriller banlieusard, western des quartiers. Pour s'amuser, Karim Dridi dit qu'il y a chez lui un peu de Scorsese, de Ken Loach et de Cazavetes. Alors c'est un peu vrai, on l'écoute nous parler de son personnage, de son cinéma politique et de sa mise en scène qui tourne le dos à la violence pour en faire un effet.
Je sais pas, mais je pense que peut-être c'est le premier film français qui s'est tourné vraiment à 100% dans un quartier.
Chez nous ici, tu as compris ?
Quand j'ai tourné Khamsa, j'ai eu la chance d'être en contact avec tous ces jeunes des quartiers. Et je me suis dit, y a un film à faire, puisque le film que j'aimerais voir au cinéma, je le vois pas. Moi j'adore Scorsese, mais j'aime bien Ken Loach aussi. Donc on pourrait imaginer un croisement entre Ken Loach, Scorsese et Cassavetes. Ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser le cinéma comme un outil. Donc si on peut allier l'utile à l'agréable, c'est-à-dire l'utile débat de société si le film en provoque, et en même temps l'agréable, c'est-à-dire d'assister à un thriller avec les codes du thriller, la rythmique du thriller. C'est un film de bandit, quoi. Moi, j'aime bien les films de gangsters.
Rosso, de retour au quartier?
Ah, je suis juste là 2 semaines.
Tu te rappelles notre promesse avant que tu partes faire tes études à Lyon?
Ah, ouais, bien sûr.
Bah, alors, tu fais comme on a dit. Moi, je ramène les sous. Toi, tu ramènes ton diplôme.
Ok, j'arrive.
Fais lui confiance un peu. Il va tout arrêter, on va monter un business 100% légal. Dans le snack diététique halal.
Snack diététique halal. C'est compatible ça?
On est dans des quartiers où il y a très très peu de justice. Quand il y a des règlements de compte, la police n'enquête pas parce que c'est des Arabes qui se tuent entre eux. Donc bon voilà, tant que ça reste comme ça, ça les arrange presque. Donc il le sait ça, il sait très bien qu'il n'y aura pas justice pour son frère. Donc il veut savoir ce qui s'est passé. Et puis après il rentre dans une spirale qui le dépasse un petit peu, quoi. Les codes, il les connaît parfaitement. Il a vécu avec les jeunes, il les connaît, il a grandi avec eux, il connaît les codes, mais il n'y adhère pas. Il y adhère tellement pas qu'il n'arrive pas à tuer, par exemple. C'est... Parce que dans tous les films, et surtout dans les films de M. Scorsese, c'est très facile de tuer les gens. Bam, bam, on flingue tout le monde. Et là, ce personnage, il a du mal à tuer, parce que c'est difficile. Je me mets à sa place, moi. Avoir un flingue et enlever la vie à quelqu'un, c'est pas facile. Donc, il connaît les codes, mais c'est pas pour ça qu'il les prend pour lui.
Slim, c'était mon frère, moi aussi. Le Wallah, il sera vengé. Fais-moi confiance.
Dis-moi quand. C'était ton frère qu'on avait charclé. Tu fais rien.
Ça va changer quoi?
C'est comme ils appellent les journalistes à Reda? Le rôtisseur.
Chauffe.
L'idée, c'était de faire du cinéma et de faire un polar, faire un thriller, un western urbain, avec une musique qui soit une musique lyrique, à la fois avec des intonations méditerranéennes. La trompette peut faire penser à Ibrahim Malouf par certaines intonations qui sont dans les quarts de ton et tout ça. Et puis les cordes, les instruments à cordes, violon, violoncelle, qui donnent une ampleur à la tragédie.
Maintenant qu'on a commencé, on ne peut plus reculer. La marche arrière, elle est cassée, mon frère.
J'aime pas les films où il y a une apologie, une fascination du crime. J'aime pas voir quelqu'un qu'on égorge en direct. Ça me dégoûte un peu. J'aime pas ce voyeurisme du sang. Donc, par contre, j'aime bien la tension que crée la violence et j'aime bien le choc. Donc au niveau mise en scène, c'était de se dire, chaque fois qu'il y aura une exécution, elle ne sera pas filmée proche. Et elle sera très brutale et très rapide. Et il n'y aura pas d'hémoglobine. Voilà, c'était ça l'idée.
Chaud.
Voilà, c'était Karim Dridi dans Cinérama que nous avons pu rencontrer, qui était très content de parler de son film, qui était un sacré projet, hein, parce qu'on l'a dit, donc des ateliers qui ont duré 2 ans, un casting avec des vraies gueules de cinéma, des vraies gueules de quartier.
Et puis lui qui a vraiment vécu en totale immersion dans ces quartiers, qui s'est fait introduire justement pour être en contact avec ceux qui faisaient tous les trafics de drogue, etc. Donc oui, un gros projet. Enfin, moi après, j'ai vraiment trouvé que c'était un film très intense, très fort, qui pour moi est assez complémentaire de Divine, par les sujets qu'il aborde, mais là qui se passe vraiment dans un univers exclusivement masculin et à Marseille, même si les personnages féminins sont très intéressants, ils ne sont pas pour autant absents du film.
Personnages de mère, de la mère notamment.
Qui sont intéressants, ils sont effacés mais intéressants. Non, c'est un film réussi, c'est un film très réussi, brutal et percutant.
Et un vrai projet donc de cinéma, et c'est dans les salles à partir du 5 octobre.
Nous sommes tous, pour autant que ces mots aient un sens précis,
Cinérama,
parfaitement au point et incapables de nous tromper.
Ah oui, balance...
La musique, en fait, c'est ça.
Hoje, trago em meu corpo as marcas do meu tempo, a fossa.
Alors, découpé en 3 actes, Aquarius, film brésilien, est avant tout un beau portrait de femme, sous-tendu par un propos social et politique pertinent et jamais manichéen. Alors, Clara, à la 60aine, femme libre et épanouie, malgré les blessures et un cancer du sein, elle est critique musicale. Elle est entourée de ses vinyles, cassettes, livres, comme autant d'objets lui évoquant non pas le passé, mais le parcours de sa vie. Issue de la petite bourgeoisie, elle vit près de Recife, au Brésil, dans un immeuble, l'Aquarius, justement, construit dans les années 40, dont elle est aujourd'hui la seule occupante. Alors c'est ici qu'elle a vécu et elle ne veut pas en partir. Un promoteur immobilier a racheté tous les appartements et la harcèle pour qu'elle cède le sien. Alors fière et droite, elle refuse de capituler, même sous la pression de ses enfants. C'est pour elle, au fond, une question de dignité, de rester intègre dans un monde qui ne l'est plus beaucoup, à l'image du jeune promoteur, alors tout gentil en apparence, mais qui a trahi ses origines pour devenir ce qu'il est. Un produit verrou du capitalisme. Alors tel que j'en parle, vous attendez vraiment à un film politique. Cet aspect est bien sûr très présent, surtout dans un troisième acte très intense, avec une surprenante séquence avec des insectes. Alors hommage à peine voilé à la série B et même au film de David Cronenberg. Alors pour le reste, Aquarius est centré autour de la vie de son héroïne, de son passé, de ses passions pour la musique, de ses relations avec ses amis, de sa famille, son attrait pour le sexe aussi, très présent dans le film. Mendoza montre une femme forte et indépendante qui garde toujours l'espoir, une combattante ayant traversé un cancer et le décès de son mari. Alors, mais c'est vrai, le réalisateur a déclaré qu'il s'inspirait beaucoup de Jackie Brown, en fait, et du personnage interprété dedans par Pam Grier. Et c'est vrai que c'est un Jackie Brown, mais sans flingue. Voilà. Et donc pour incarner Clara, hein, le réalisateur a choisi Sonia Braga, un véritable objet de culte au Brésil, hein, un sex symbole à elle toute seule, au même titre que Marilyn Monroe. Actrice internationale, elle a aussi tourné aux États-Unis pour Redford et Clint Eastwood. On l'a vu aussi dans le très beau Le baiser de la femme araignée. Alors, elle est magnifique, irradiante de beauté malgré son âge. Elle est l'intérêt majeur de ce film fleuve qui aurait mérité à être davantage resserré. Fascinée par son actrice, Mendoza oublie parfois le récit et un ennui poli s'instaure. Alors, des séquences entières paraissent inutiles, mais dès que le film revient sur son sujet politique, il retrouve une tension, une vitalité qui le rend passionnant. La mise en scène flottante parfois à coups de zoom approximatif retrouve alors une dynamique lorsque le scénario revient sur ses rails. Enfin, je trouve que c'est un film très intéressant, mais qui aurait pu être amputé d'une demi-heure.
Quand même. En tout cas,
amputé.
Oui. Pas,
je parlais pas du cancer moyen du sein, c'était moyen comme une métaphore.
Et donc, ça faisait partie des films qui étaient présents à Cannes.
Oui. Non, mais c'est un beau film, hein, un peu long. Mmh. Voilà.
Nous passons à
un autre film qui était présent à Cannes aussi.
Et un autre univers, celui de la danseuse.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
La danseuse, c'est l'histoire de Louis Fuller. Louis Fuller qui a grandi aux États-Unis à la fin du 19e siècle entre un père alcoolique et une mère religieuse. Déjà, ça commençait bien. Alors, désirant plus que tout devenir actrice, elle passe son grand succès des auditions pour obtenir des petits rôles. Et puis un jour, sur scène, en se prenant les pieds dans sa robe trop grande, elle a une révélation. Elle va devenir danseuse. Sa rencontre avec Louis, un noble ruiné et toxicomane, précipite les choses. Elle lui vole son argent et s'enfuit en France, bien décidée à réussir son rêve, danser à l'Opéra de Paris. Mais c'est d'abord aux Folies Bergères qu'elle se fera un nom et deviendra même l'une des figures de la Belle Époque. Mais l'arrivée de Isadora Duncan va changer les choses, puisque c'est elle que l'on retiendra comme l'initiatrice de la danse contemporaine et non Louis Fuller, qui sombrera dans l'oubli.
Demain, je vous fais passer une audition au public. Et au revoir.
Quand je serai prête. Faut que je continue à m'entraîner.
Je vais regarder ses dessins. Il se tient, son dispositif.
Et c'est quoi toutes ces machines?
Ce sont des projecteurs électriques.
Exactement.
Tout ça pour une danse?
J'ai aussi besoin d'hommes pour tenir les projecteurs. J'ai de l'argent pour payer tous mes techniciens et toutes mes lumières, vous inquiétez pas.
Vous avez des valisiennes banques ou...
Mais c'est important, la lumière. Il faut que ce soit beau, non?
Oui, mais moi je vends du spectacle. Les gens, ils viennent pour s'amuser. Et c'est déjà beaucoup.
Non, pour moi, c'est pas assez.
Alors, la danseuse, c'est un destin volontairement traduit dans un grand souffle romanesque qui réfléchit aussi à ce qu'est l'essence de la danse. Est-ce que c'est l'inspiration, la puissance créatrice, ou bien est-ce la grâce innée, la perfection du geste? Alors, pour donner corps à tout cela, le film s'offre un très beau casting. Gaspard Ulliel, que moi j'ai trouvé vraiment parfait, François Damien, Mélanie Thierry, et l'on assiste dans le rôle principal à l'avènement véritablement d'une actrice, Soko, de son vrai nom Stéphanie Sokolinski, qu'on connaît surtout comme chanteuse, mais qui a en fait déjà joué dans une bonne vingtaine de films, dont Voir du pays, qui est encore à l'affiche. Et puis, c'est le premier rôle très attendu de Lily Rose Depp, qui incarne Isadora Duncan, et qui se révèle en fait assez décevante, trop jeune, trop éthérée. Elle n'a pas les épaules pour assumer le rôle et se contente de traverser comme ça le film de façon très, très photogénique, mais sans réelle présence. Alors, en dehors de cela, sur le plan esthétique, le film est une réussite totale. C'est un premier film très convaincant pour Stéphanie DiGiusto qui laisse une vraie empreinte visuelle avec un soin presque maniaque apporté à l'image. Chaque plan étant très recherché, pensé comme un tableau, et le tout s'accompagne parfaitement de la musique de Nick Cave. On ne sait pas trop d'ailleurs si c'est l'image qui a inspiré la musique ou l'inverse, tellement les deux sont complémentaires. Donc moi je trouve que c'est vraiment un premier film réussi, qui n'est pas parfait, hein, mais qui est vraiment réussi. Et pour la petite histoire d'ailleurs, finalement il y a eu une justice puisque Isadora Duncan est morte étranglée par son écharpe. Donc voilà.
Justice.
Finalement,
c'est
il y a
ce
une
que
justice.
Tu appelles la justice.
Mais elle a volé la place de Louis Fuller.
La justice
voilà.
Divine, tu veux pas dire
ça? Non, mais ce que montre le film aussi, qui est très intéressant pour les deux personnages, ces deux personnages historiques, c'est que l'une effectivement travaillait avec des lumières et l'autre, Isabella Duncan, elle travaillait sur le geste.
Oui, le
donc
geste.
La danse aussi, on peut considérer que c'est avant tout le geste. Ça, je trouve que c'est très bien montré. Et moi, je trouve que plutôt, elle s'en sort plutôt bien, hein, la jeune Paradep. Moi, je l'appelle Paradep maintenant.
Paradep.
Et elle s'en sort plutôt bien parce qu'elle elle a le rôle un peu de peste, hein, mm-hmm. En tout cas de... de personnage qui veut absolument y arriver et par tous les moyens et qui tisse des relations par intérêt et ainsi de suite. Moi, je trouve que c'est plutôt bien fait.
Alors après, je ne sais pas si dans la vraie vie, il y a vraiment une attirance amoureuse. Oui. Comme, voilà. Mais après, je pense que le film joue trop là-dessus et ça fait vraiment penser à la trame narrative de Black Swan pour moi. Et c'est vraiment dommage parce qu'on tombe presque dans un cliché avec ça, alors qu'ils auraient pu se contenter de la rivalité professionnelle. C'était déjà assez intéressant, je pense. Mmh. Voilà.
Ce qu'il faut noter, c'est que Gaspard Ulliel a un peu plus de dialogue que dans Xavier Dolan, mais il n'en a pas beaucoup plus non plus, quand même. Voilà. Allez, on continue avec un autre, avec un film qui, va sortir le 5 octobre, c'est Le ciel attendra.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Voilà un film qui s'inspire de notre époque, très en phase avec l'actualité. Sur Internet, on placerait des mots-clés comme Daesh, Syrie, embrigadement, filles, mariage, réseaux sociaux, jeunesse. Et on aurait fait le tour. Le ciel attendra est précisément un film dont le point de départ est un article dans un journal racontant comment un frère est parti à la recherche de sa sœur en Syrie. Le film raconte la trajectoire de deux adolescentes de 16 et 17 ans. L'une, la plus âgée, Sonia, a failli participer à l'organisation d'attentats et sort de l'engrenage de l'embrigadement, entourée par ses parents alors qu'ils n'ont rien vu venir, et par Dounia Bouzar, qui est la créatrice du très récent centre de prévention contre les dérives sectaires liées à l'islam. Et l'autre fille, Mélanie, va faire le chemin inverse. Elle vit seule avec sa mère, elle a des amis, joue du violoncelle et elle, elle veut changer le monde. Elle tombe amoureuse d'un prince sur Facebook, un garçon qui veut faire d'elle sa princesse et sa femme dans un autre pays, la Syrie. Cette stratégie est connue par les spécialistes de la question. Elle vise à faire venir des jeunes femmes converties, car plus manipulables, pour se marier en Syrie et repeupler l'État islamique. Rien que ça. Alors dit comme ça, ça paraît fou, mais l'une des qualités de Le ciel attendra, de Marie Castille mention char, est son aspect documentaire, allant d'ailleurs jusqu'à montrer des parents bien sûr abattus et d'autres incrédules. Un ado est potentiellement en rupture, en rébellion, mais ça lui passe, pensent certains, non, pas tout le temps. Ce que montre le film de la réalisatrice, c'est que l'embrigadement touche tous les milieux et plus largement les familles de la classe moyenne. Mais le phénomène est bien évidemment marginal, rassurez-vous, votre enfant a plus de chances de tomber dans la drogue que dans les griffes de Daesh. Alors la réalisatrice s'applique dans sa tâche, elle compose une fiction documentée en pratiquant un dosage bien précis entre ce que vivent ces deux filles, celle qui doit se désintoxiquer et qui se retrouve donc privée d'internet, et l'autre qui part sur un nuage propulsé par les réseaux sociaux où elle trouve un échappatoire dans un amour possible. Et puis elle trouve aussi une fuite et dans YouTube où elle se nourrit d'images de propagande qui finissent complètement de la radicaliser. La réalisatrice montre également comment les parents peuvent souffrir de n'avoir rien vu venir, la diversité des regards face à cet embrigadement qui les dépossède de leur progéniture de manière radicale. Elle montre, et c'est la partie la plus documentée, les réunions entre les parents et l'équipe de Dounia Bouzar, dont j'ai parlé tout à l'heure, avec sa méthode de déradicalisation. C'est d'autant plus documenté que c'est l'anthropologue qui joue son propre rôle.
Moi, j'ai choisi l'islam à ton âge, parce que justement, il n'y avait pas de clergé entre moi et Dieu, tu vois?
Je m'en fous de vos histoires, vous pouvez me raconter ce que vous voulez. Ou c'est encore un truc pour m'enfoncer un peu plus? C'est comme le papier de la juge, il y a des noms dessus, je sais même pas qui c'est. Tous les jours, on ajoute des trucs à mon dossier, bientôt je suis la chef de réseau, n'importe quoi.
Sonia.
Non mais c'est vrai quoi.
Sonia, tu n'as pas été embrigadée pour aller acheter une baguette de pain non plus. Il faut que tu comprennes. Bien sûr que tu connais pas les noms qui sont dans ton dossier, parce que tu parlais à des inconnus sur Internet qui préparaient un attentat en France. Je sais que vous êtes des victimes, mais vous êtes aussi des coupables. Chacune, elle embrigade l'autre, qui embrigade l'autre, et puis l'autre, et puis l'autre. C'est une espèce de chaîne vers la mort, comme ça, que vous mettez en place.
L'ensemble est bien tenu, la réalisatrice s'applique à tout décortiquer en usant de plusieurs éléments. Alors la temporalité, tout d'abord, on est aux prises avec au moins un récit au passé, le présent est plutôt inconsistant. Il y a également des lieux, le lycée, la maison, la chambre et puis le virtuel. Reviennent régulièrement le son du violoncelle, les messages sur le portable, la pluie qui s'abat sur les vitres et d'une manière générale une ambiance anxiogène que la lumière du film accompagne avec douceur. Il y a également les acteurs, on appréciera le jeu des deux jeunes filles qui donnent corps à cette fascination pour Daesh. On appréciera diversement le jeu des parents incarné par Sandrine Bonner, Clotilde Courau, Yvan Attal et Zinedine Soilem. Clotilde Courau a eu peut-être le rôle le moins facile, passant beaucoup de temps dans la tristesse et les pleurs, puisque c'est la mère de la fille qui fait le trajet vers la Syrie. Le ciel attendra n'est pas seulement un film éclairant sur le sujet de la radicalisation islamiste, c'est aussi une œuvre chargée de drames, de douleurs, d'incompréhension. On en sort au moins en ayant appris quelque chose. Le ciel attendra, c'est un film qui sort le 5 octobre.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui?
Cinérama.
Non, j'ai été plutôt déçu.
Alors c'était sûrement une comédie.
Alors, qu'attendre aujourd'hui d'un film de Tim Burton ?
C'est la question qu'on me pose.
Je vous pose la question.
Voir les seins de Eva Green, peut-être ?
Bon, raté, hein. Alors, enfermé quand même hein, depuis presque deux décennies hein, dans son petit théâtre gothique, hein, peuplé de personnages de moins en moins intéressants, de monstres ayant rejoint souvent la norme, il ne parvient plus à créer la surprise, ni même la curiosité. Alors, le début de Miss Pellegrine et les enfants particuliers hein, possède pourtant une petite atmosphère réjouissante, rappelant vaguement Édouard aux mains d'argent. Alors, Burton hein, filme la triste banlieue californienne avec un sens amusant du détail et surtout laisse poindre un esprit de sale gosse retrouvé, s'en prenant justement à la norme, la famille, le quotidien embarrassant. Hélas, il faut vite déchanter malgré un sujet intéressant. Alors, à la mort de son grand-père, hein, considéré jusque-là atteint de sénilité, Jacob se rend en Écosse, dans un lieu où a vécu justement ce grand-père. Il va découvrir un monde magique où vivent Miss Pellegrine et les enfants particuliers, tous bénéficiant de pouvoirs étranges. Alors, le plus insolite tient du fait qu'ils sont coincés en 1943 dans une boucle temporelle, revivant la même journée inlassablement pour ne pas mourir sous les bombardements nazis. Alors, Jacob va aussi apprendre qu'il n'est pas là par hasard, qu'il possède lui aussi une particularité capable de sauver ses nouveaux amis de puissants démons.
Nous sommes ce qu'on appelle communément des êtres particuliers. Les gens comme nous sont persécutés depuis la nuit des temps. C'est pour cela que nous vivons dans des endroits comme celui-ci. J'appartiens à une certaine catégorie, les embrunes.
Oui, je sais, les gens qui se transforment en oiseaux.
Vous avez raison, c'est exact. Mais ça ne sert pas à grand-chose. Le principal talent d'une embrune est la manipulation temporelle. Nous choisissons un endroit sûr et un jour tranquille, et nous créons une boucle.
Je comprends pas.
Une boucle temporelle permet de sauvegarder les dernières 24 heures. Si on renouvelle la boucle, on peut de nouveau vivre ces 24 heures. Si on recommence chaque jour, ces 24 heures durent pour l'éternité. Et on y réside à jamais à l'abri du monde extérieur. Toutes les embrunes s'engagent à créer et diriger un établissement tel que celui-ci. Un foyer pour enfants particuliers.
Alors, première déception, hein, Tim Burton ne fait rien de son sujet sur le thème un peu d'un film culte, Un jour sans fin, d'Harold Ramis avec... je ne me souviens plus de l'acteur, mais ce n'est pas grave.
Bill Murray.
Bill Murray, voilà. Ensuite, la mise en scène anonyme ne diffère jamais d'un quelconque Harry Potter ou Narnia. Les effets numériques ont un peu annihilé l'imaginaire de Tim Burton, aujourd'hui passe-partout. Alors, son hommage sincère à Ray Harryhausen, un spécialiste des effets spéciaux, lors d'une bataille de squelettes qui rappelle Jason et les Argonautes, manque d'émotion et de finesse. Alors, délesté de sa part créative, de l'inventivité esthétique de son univers et de ses personnages monstrueux et émouvants, le cinéma de Burton perd toute sa vitalité, sa sensibilité. D'autant qu'il n'a jamais été un bon conteur. Étrangement, et ça je m'en suis rendu compte récemment, même avec ses meilleurs films, Burton ne sait pas raconter une histoire. La force de ses films tient, comme chez Fellini ou Gilliam, à la puissance d'incarnation de son monde créé de toutes pièces et par extension de ses créatures si singulières, si touchantes. Alors sans un Vincent, hein, sans un pingouin ou un Édouard, hein, ses films paraissent vains et creux. Miss Pellegrine n'y échappe pas, hein, aucun personnage n'intéresse en dépit de la jolie plastique d'Eva Green. La marginalité des enfants paraît artificielle et sans fondement, juste pour rappeler la marque de fabrique de celui qui fut un des grands cinéastes à l'aube des années 90. Et malgré quelques belles séquences poétiques et macabres, hein, Miss Pellegrine demeure l'un des films les plus faibles de son auteur, hein, rangé, on va dire, du côté de Alice au Pays des Merveilles ou de Sa Planète des Singes.
Ah. Eh oui,
c'est bah pas oui, très... c'est pas très glorieux tout ça.
Et le Vincent dont tu parlais, c'est Vincent Price, un des premiers films de Tim Burton, voire le premier.
Ah, c'est un hommage à Vincent Price qui était l'acteur préféré de Tim Burton. Alors, c'est mon point de vue, hein, parce que finalement, le film est quand même l'un des mieux reçus de Tim Burton par la presse depuis une dizaine d'années. Hein. Alors que j'avais préféré son précédent, Big Eyes, que je trouvais pas si mal que ça, en fait.
Et Marine fait la moue. C'était elle qui l'avait chroniqué, je crois. Il y a un petit moment.
Alors méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui?
Il va pas contrôler qui est qui.
Quoi, qui est qui?
Bah quoi, qui est qui, quoi?
Eh bien, qu'y a-t-il?
Auriez-vous oublié que nous partons?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
Alors, la semaine prochaine, eh bien, nous aurons encore une interview, celle de Sacha Wolfe, avec la réalisatrice du film Le Mercenaire. Et puis, je parlerai d'Odyssée.
Bah moi, je vous parlerai du dernier film du jeune réalisateur Alejandro Jodorowsky, de 87 ans, avec son nouveau film Poesia sin fin.
Et moi, ce sera le nouveau film de Michael Fassbender, Un amour entre deux océans. Et puis, je crois que je vais devoir m'y coller à Bridget Jones, Baby. À la semaine prochaine.
Qu'y a-t-il ?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif ?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il ?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Oh non. Oui, on...